Bon, mais bonsoir. Je vais m'asseoir, non? Il faut rester debout.
Non,
on va s'asseoir parce que là, on est.
Il n'y a pas de
oui, il n'y a pas d'extra.
Il faut tenir 20 minutes quand même. Donc, alors, donc j'arrive. J'arrive effectivement du Gers, où je suis de temps en temps. Juste pour situer un petit peu l'histoire, Arbre et Paysage 32, comme Arbre et Paysage de l'Aveyron, comme Arbre et Paysage du Tarn, comme Arbre et Paysage d'Autun, de Gironde, etc., sont principalement, pas exclusivement, mais des associations créées par les agriculteurs. Arbre et Paysage 32, c'est une préfiguration en 85 ou 86, une création officielle d'une association loi 1901 en 1990 pour répondre à ces questions d'arbres hors la forêt, puisque c'est la thématique, les arbres de la forêt qui sont gérés par des organismes publics tels que l'ONF ou des organismes privés tels que la forêt privée française, le CNPF en l'occurrence. Et puis toutes ces questions, ben, vous le savez, d'arbres hors forêt, elles étaient entre deux et surtout sous les bulles et plus particulièrement sous les poquelins. C'est-à-dire qu'on a, dans les histoires de remembrement, beaucoup arraché de haies. Je vais faire vite, parce que c'est une histoire que vous connaissez par cœur. C'est pas qu'elle n'est pas intéressante, mais les techniciens de l'État à l'époque étaient indexés sur les montants des travaux. Les montants des travaux, c'était aussi l'arrachage des haies, les fossés et les routes. Enfin, les chemins, pardon. Et donc, on a créé ces associations. Donc, il y a un mouvement en France qui a émergé dans les années 90. On a créé ces associations pour faire du conseil, pour valoriser un peu mieux les haies, pour éviter d'arracher quand il n'y avait pas nécessité. Après, évidemment, il y avait des parcelles trop petites et ça valait le coup. C'est comme dans le vignoble. Des fois, il faut restructurer un peu, n'est-ce pas ? Il faut arranger. Et donc, on a créé ces associations et qu'on a, dans la mesure du possible, professionnalisé. Parce que répondre par du militantisme et une critique, c'est bien. Répondre par des travaux pratiques en disant « Mais attendez, s'il y a des haies, c'est qu'à un moment donné, elles peuvent servir à quelque chose. » Et donc aujourd'hui, Arbre et Paysage 32, on est 12 salariés qui ne faisons que de l'agroforesterie. Alors ça veut dire de la recherche, ça veut dire du développement, ça veut dire du conseil, de la plantation, de la gestion, de l'entretien. Et évidemment, on intervient dans le milieu agricole. Alors qu'on soit en viticulture, en maraîchage, en grande culture ou en élevage, là on nous demande d'intervenir. Il n'a jamais été question d'aller gérer ou planter un arbre. Les conseils d'administration d'Arbres et Paysages 32, par exemple, c'est un peu spécifique, mais sur 12 membres, c'est 11 agriculteurs. Alors dedans, il y en a un qui a 1200 hectares, en bio d'ailleurs, puis il y en a un autre qui en a 12, et puis il y en a qu'on on essaie d'avoir une géométrie variable. Ils sont tous syndiqués, ils sont tous dans des groupes coopératifs, dans les chambres consulaires, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est l'arbre. Voilà. Et donc, on essaie, et en tout cas dans un département comme le nôtre, c'est pas facile, pour ceux qui connaissent le Gers, qui est c'est le plus beau département de France, juste après Arrive-l'Aveyron, évidemment. Mais, je le pense pas vraiment, mais bon.
Que
le Gers, c'est avant l'Aveyron, je veux dire. Mais c'est pas forcément le sujet de ce soir. Puis je vais pas non plus prendre des claques tout de suite. Voilà, je l'ai goûté un peu le vallon, mais pas complètement. Donc on va y revenir. Voilà. Donc on est aujourd'hui donc une association française, une représentation à Bruxelles, où on essaie de faire exister ce sujet qui nous paraît absolument essentiel. C'est pas parce qu'il est essentiel qu'on va foutre des arbres partout. Que les choses soient claires, on va mettre des arbres dispersés dans le paysage en fonction des cultures ou de l'élevage ou des pratiques agricoles qu'on va avoir en fonction des besoins. On intervient toujours, évidemment, quand il y a des problèmes. Le but, c'est ça. Alors ici, on est quand même dans des paysages que nous, on qualifie. Alors, le mot agroforesterie, on l'a fait monter parce qu'il se traduit bien en anglais, c'est agroforestry. Il y a une association mondiale, il y a une association européenne, il y a des associations qui commencent à être préfigurées en Europe, pour que dans la PAC, on puisse dire à un moment donné, vous l'avez vu cette année ou pas, mais tout d'un coup les haies sont sorties de l'îlot, alors un jour elles y sont, un jour elles y sont pas, comment voulez-vous qu'on fasse une politique avec les arbres si on n'est même pas capable dans la réglementation et dans le code rural de mettre des lignes claires dessus? Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que y a plein d'agricultures qui ne pourront pas se passer d'arbres. Ça, c'est quelque chose qu'on peut démontrer, avérer. Il y a plein de formes d'agriculture qui ne pourront pas se passer d'arbres, y compris des agricultures bio. On y reviendra peut-être tout à l'heure, par exemple. Donc, si elles ne peuvent pas s'en passer, à quel prix, dans quelles conditions, à quel moment, avec quels moyens, avec quelles personnes, etc. Et on essaie de Donc on a mis, il y a des brochures, les livresses, on les donne. Hein, je le dis parce que les gens, certains d'entre vous hésitaient à les prendre, on les donne, ils sont financés par des pouvoirs publics et des fondations. On essaie de trouver les justes milieux, le schéma d'adéquation, et pour mettre dans la machine Bruxelles, dans la machine parisienne. Et puis aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'autorité de gestion, les régions vont changer puisqu'on va voter au mois de décembre, n'est-ce pas, pour fusionner deux belles régions, pour avoir encore un vignoble plus grand et plus performant. Et donc pour faire exister ce sujet qui, pour l'instant, a un peu de mal à être connu et reconnu. Alors, l'agroforesterie, on ne l'a certainement pas inventée. Hein, des formes d'agroforesterie, elles sont vieilles comme le monde. Le bocage, les haies, c'est l'agroforesterie. Toute forme d'arbre qui juxtapose un champ, une production, un élevage, c'est la ripisylve, c'est les formations de bords de ports de cours d'eau. C'est les haies, c'est les arbres isolés. Je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs en Aveyron, les arbres têtards. Il y a forcément deux ou trois noms en fonction de... Dans le Perche, on les appelle les trognes. Hein, vous voyez tout ce que c'est qu'un arbre têtard. Hein. D'ailleurs, en vigne, on a copié. En vigne, on a fait des trognes. En vigne, on la taille tous les ans à zéro. Donc c'est une trogne aussi. Vous saviez ça? Vous saviez pas ça? Il y a deux trucs importants à savoir sur la vigne. Enfin, mais si! La vigne, c'est une trogne. Comment?
Non.
Ouais, mais moi aussi, mais je suis pas vu.
Tout à l'heure, tout à l'heure.
Ouais, enfin.
Pourquoi payer à voir?
Il y a des trucs intéressants. Et bah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
Les trognes.
Ouais, les trognes. Ouais, les trognes.
Voilà. Au trognon.
À la tête. Hein. On est tête. On le voit beaucoup avec les frênes par ici, par exemple.
Hein,
qu'on fasse du fourrage, qu'on fasse du fagot, qu'on fasse maintenant du bois énergie avec les broyeurs, etc. Bon ben voilà, les trognes, c'est de l'agroforesterie. Et aujourd'hui, quand on commence à mesurer, on voit des éleveurs qui font, avec les trognes, ils font de la litière. Au lieu d'aller chercher de la paille chez nous, par exemple, ils font de la litière. Et puis ils se chauffent ou ils vendent à la commune à côté. Enfin, ça existe aussi par là. Et bon, ben, des fois, on a 10-12% du revenu qui est lié à ce bois énergie. Et ce qu'on veut, tout simplement, c'est que l'arbre, ben, l'arbre, il n'est pas mauvais sur le climat. Bon, on est dans l'année du climat, ça tombe bien. Il n'est pas mauvais sur le sol. Il n'est pas mauvais sur la biodiversité. Ça ne fait pas tout, attention. Hein. Il n'est pas mauvais sur l'eau. Il n'est pas mauvais sur la productivité agricole. Si vous prenez, par exemple... Vous allez peut-être me foutre dehors tellement je prends un exemple simple.
Non,
on ne sait jamais. Vous prenez par exemple, regardez, là j'ai un œuf et là j'ai un œuf. Celui-là, il est agroforestier. Allez, on va dire que les deux sont bio. C'est important. C'est à la mode. Voilà. Donc vous avez deux œufs bio. Là, j'ai deux œufs bio. Celui-là est agroforestier. Celui-là, il ne l'est pas. C'est-à-dire que là, j'ai une poule bio qui va manger du soja qui vient du Brésil, n'est pas mauvais. Hein.
Donc,
non, mais on s'en fout. Non, mais donc j'ai une poule qui va manger un aliment bio dans un bâtiment en plein air, sauf que dans ce bâtiment, il y a toujours du vent, il y a toujours du froid, il y a toujours du chaud. Donc la poule, elle ne sort pas. Ouais, faites la photo, là, l'œuf, il est pas mal.
C'est justement pour ça.
Donc là, vous avez un œuf, la poule, elle ne sort pas. Bon, elle bouge, ça, super. Hein. Et puis là, vous avez l'autre, celui qui est agroforestier. Donc, les poules, elles sont sous des trognes de frênes. Vous avez un hectare de trognes. Donc, les poules, elles sont toute la journée dehors. Donc, elles bouffent des insectes, des vers de terre, des feuilles. Je ne sais pas si vous avez déjà des poules, mais ça bouffe des feuilles toute la journée, de l'herbe, etc. Donc, mon œuf agroforestier, il va avoir 7-8% d'aliments consommés en moins. Le jaune va être plus jaune. Le blanc va être plus ferme. Il y a moins de pathologies sur l'élevage, parce qu'un animal qui n'est pas stressé, qui ne passe pas son temps à lutter contre du froid, du chaud, ou sa voisine qui l'emmerde, c'est un animal qui est épanoui. C'est des choses qui sont vérifiées. Oui, ça marche aussi avec les gosses, ne vous inquiétez pas. Bon, mais la différence, c'est que j'ai des frênes, mais j'ai aussi un peu de chêne, j'ai quelques aubépines, j'ai des églantiers, j'ai tout ce que vous voulez, donc ce qui pourrait s'appeler un peu de diversité, éventuellement de la biodiversité. C'est-à-dire qu'au-dessus de mon élevage de poules, j'ai des abeilles. Comme c'est des arbres têtards, j'ai des chauves-souris. Comme c'est des arbres têtards, j'ai la chouette, c'est laquelle qui niche dans les cavités. Peut-être de l'effraie, oui.
La chevêche.
Voilà, heureusement qu'il y en a qui suivent. Et tous les 5 ans, je vais tailler mes arbres têtards et je vais chauffer la maison avec. Donc vous avez un œuf qui a une valeur gustative certainement meilleure, à la rigueur des qualités dites organoleptiques intéressantes, mais je vais avoir stocké beaucoup de carbone dans mon sol, beaucoup de carbone dans mon tronc, beaucoup de carbone dans mes branches, que je vais brûler ou que je vais utiliser sous différentes choses. Je vais amortir le chaud, amortir le froid. J'ai beaucoup moins, et c'est avéré, beaucoup moins de pathologies sur les animaux quand ils sont... Ben voilà, on peut aller boire un coup, l'agroforesterie.
C'est fini.
Mais ça se résume, quelque part, ça se résume à ça. Donc le mot est un peu barbare.
Même
il est un peu... Comment ?
Même le renard est content.
Oui. Même le renard est content. Ah ben, les poules qui courent un peu, qui ont des cuisses un peu structurées. Alors, c'est bien. Alors après, il ne faut pas tout mélanger, mais je peux avoir des arbres fruitiers au-dessus. Je peux avoir... Et si je prends l'exemple du Gers, on a encore beaucoup de parcours de canards sur lesquels il n'y a pas d'arbres. Parce que c'est vrai que les arbres, il faut les planter. C'est vrai que les arbres, il faut qu'ils poussent. Mais mettez un arbre avec des canards, ils bouffent tout. Mettez un arbre avec des poulets, ils bouffent tout. Mettez un arbre avec des moutons, ils mangent tout. Mettez un arbre avec des chevaux, c'est terrifiant, etc., etc. Donc il faut aussi avoir des cahiers des charges, des conditions techniques où on plante le bon arbre au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes et le bon suivi. Et c'est ça l'enjeu à venir. Ici, les arbres, il y en a partout, donc je ne sais pas s'il faut en planter plus que ça. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout état de cause, l'idée de l'agroforesterie aujourd'hui, c'est de trouver une valeur environnementale, évidemment, mais une valeur environnementale qui est toujours indexée sur une valeur économique et une valeur sociale. Ce n'est pas juste on va mettre des arbres pour faire beau ou parce que ça attire tel type de bestioles. C'est de trouver une juxtaposition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en grande culture, par exemple, grande culture, on essaie de trouver le juste milieu. Il y a des endroits, il y a des champs bien trop grands. Et compte tenu de... Sans parler de réchauffement, mais de changement climatique, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la plupart des régions de France, les rendements, avant, ils stagnaient, maintenant, ils baissent. Dès qu'il y a un incident un peu fort, cette année, il y a un grand coup de sec, là, ça stagne et ça s'arrête. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Si je mets des arbres au-dessus des blés, est-ce que je vais perdre du rendement ? Si j'en mets beaucoup, ça c'est sûr. Si j'en mets pas trop, peut-être pas. Et puis, si j'évite de l'averse, si j'évite de l'évapotranspiration et du stress supplémentaire pour les plantes, si j'ai des auxiliaires, des cultures dont vous avez déjà entendu parler, alors on parle des carabes pour les limaces, on peut parler des cirques pour les pucerons, des coccinelles, on peut parler des oiseaux. L'idée, c'est de trouver les justes milieux entre comment je maintiens une production avec un optimum de rendement. Il y a des zones dans le sud-sud de la France, on commence à planter les arbres dans les vignes, par exemple. Parce qu'à un moment donné, la vigne, elle peut avoir besoin d'être un petit peu à l'ombre dans la journée. Et du coup, là, je retrouve un peu mon idée d'arbre têtard. Parce que l'arbre têtard, je vais récupérer du bois, mais je vais surtout rééclairer la culture. Alors, si c'est une vigne, des fois, il faut quand même qu'il y ait un peu de lumière, il faut un petit peu qu'il y ait de la lumière qui rentre dedans. Hein, donc, on essaie de trouver les ajustements comme ça. Et puis, quel que soit, je pense aux prairies, il y a des prairies qui l'étaient, elles sont vraiment sèches. Et parfois, on vérifie qu'avec une densité d'arbres, toujours pareil, hein, les bons, mais ça n'est pas là pour planter ce soir, je ne crois pas en tout cas, mais dans les bonnes conditions, au bon moment, on va créer des microclimats. On va créer des microclimats qui font que les idées reçues, des fois on dit sous les arbres, ils ne poussent rien. C'est sûr que quand c'est un arbre qui n'a jamais été taillé, quand c'est un arbre sous lequel il y a 10 vaches en permanence, c'est vrai que là, l'idée première de ces systèmes agroforestiers, qu'on fasse, quelles que soient les formes d'arbres, on peut faire du bois d'or, on peut faire de la branche, du bois énergie, du BRF, vous avez peut-être entendu parler de BRF, ça aussi, ça a eu été à la mode, ça l'est un peu moins, mais enfin ça reste somme toute un produit intéressant. Le bois broyé, frais, c'est en principe assez riche. Mis dans de bonnes conditions, au bon moment, si vous le mettez sur un sol qui est complètement asphyxié, il ne poussera jamais rien dessous. Mais si vous le mettez dans de bonnes conditions, ça peut fonctionner. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On en est là. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile parce qu'on lutte quand même beaucoup contre les idées reçues. On lutte beaucoup contre la réglementation. Parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. On lutte contre le fait d'avoir, quand on arrive avec des arbres dans ou autour des champs, on va avoir potentiellement toutes ces interactions. Alors, des fois, elles sont négatives, hein, attention, ça ne fait pas des miracles. Si on les fait correctement, elles sont plutôt positives sur l'eau, sur le sol, sur la biodiversité, etc. Et ça, pour l'instant, dans le schéma européen, et c'est encore pire en France, ce n'est pas quelque chose qu'on a intégré. Dans la réflexion française, un jour on va protéger les masses d'eau. Après, on va protéger la biodiversité. Après, éventuellement, on va protéger les sols. Après, on va protéger les papillons. Ah non, mais c'est vrai, rigolez pas, c'est quand même...
Il n'y a pas d'approche globale,
il y a deux plans. Là, il y a un plan qui est sorti sur les abeilles au ministère de l'Agriculture. Deux mois après, il sort un plan pour les pollinisateurs sauvages au ministère de l'Écologie. Vous voyez, c'est vrai qu'ils sont à 800 mètres, les deux ministères. Donc c'est toujours un peu chiant. Il faut des chauffeurs. Il faut des chauffeurs, il faut barrer la route, tout ça. C'est pas forcément simple. Mais donc, bon, après, c'est aussi nous, hein, on est dans cet écosystème-là. Et donc, si ça vous intéresse, il faut participer à ça, il faut planter quand il y a besoin. Et un des piliers de l'agroforesterie, c'est important de le dire, notamment dans des contrées riches comme les vôtres, à tout niveau, je veux dire. Mais c'est la régénération naturelle assistée. C'est-à-dire que vous avez du potentiel en bord de route, en bord de chemin, en bord de fossé, en bord de cours d'eau. Vous avez des cours d'eau sur lesquels il n'y a pas un arbre. Alors, des fois, il faut laisser un peu de place aux pêcheurs. Des fois, il faut laisser un peu de lumière rentrer sur le cours d'eau. Mais potentiellement, il y a un cycle qui est vraiment le moteur de l'agroforesterie. C'est la ronce. La ronce, c'est une plante fabuleuse. Ça, vous le saviez. Alors, pourquoi c'est une plante fabuleuse ? Il y en a qui rigolent. Alors, ramasse les murs, ouais. Oui. Moi, j'ai pas le temps, mais c'est vrai qu'il paraît que c'est bon. Ça se distille en plus, je crois. Hein. Alors, pourquoi c'est ça ? Pourquoi il y a un mec qui vient du Gers pour vous dire que la ronce, c'est bien ?
C'est
un repère pour plein d'animaux.
Ça pousse sur tous les terrains.
Alors, oui, visiblement, ça pousse sur...
calcaire.
Même sur les rougiers, ça pousse, apparemment.
Oui,
il n'y
a pas de problème. Même sur les rougiers, très bien.
Donc, la ronce, pourquoi ? Alors, ça retient l'eau. Et il y a un proverbe, vous le connaissez peut-être, qui est lié à la ronce. Comment ?
Elles ont des yeux.
Elles savent où elles vont. Mais il y en a un autre.
Là où la ronce pousse.
Vous ne
connaissez pas ? Où la ronce pousse.
La misère arrive. Ah oui, ça a plein de vertus, oui. Non, le principe de la ronce, le proverbe dit que la ronce est le berceau du chêne. Hein? Parce qu'effectivement,
ça protège les graines là, voilà, qui sont semées là.
Le petit jet va se poser, il va laisser tomber le gland, il va l'oublier. Enfin bon, le gland va pousser, protéger du chevreuil, dans la fraîcheur, etc. Et quand vous laissez un haut de talus, que vous arrêtez de passer les pareuses, ben vous avez des ronces pendant 2 ou 3 ans. Et puis les arbres, la dynamique des arbres, en fonction du milieu, alors c'est du cornouiller, c'est de l'aubépine, c'est du prunelier, c'est du fusain, c'est quand c'est plus humide avec les pionniers type les saules, les bouleaux, etc., etc. Et puis vous avez toute la dynamique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui existe évidemment en boisement et en forêt, hein, la régénération naturelle, après la tempête par exemple. Mais, et là, du coup, ben, ça veut dire que dans certaines zones, là où, encore une fois, c'est nécessaire, utile, on peut avoir, à moindre coût, des végétaux plutôt adaptés, puisqu'ils vont pousser tout seuls. Alors, des fois, il faut gérer, parce qu'il peut y avoir des plantes envahissantes au milieu qui poussent. Mais il est bien évident que quand la ronce est contenue, côté haut, c'est un talus, puisque derrière, c'est cultivé, côté bas, parce que c'est un talus routier, etc., les gestionnaires des routes, qui sont sur les départementales, les départements, etc., etc., vous pouvez créer une haie, comme ça, à moindre coût. Je peux dire que c'est quand même beaucoup plus efficace que de foutre toutes ces saloperies d'hôtels à insectes, ou foutre des graines par-ci, machin. Vous pouvez, sur 100 mètres, vous avez une dynamique de végétation extrêmement importante. Et la haie faisant partie du système agroforestier, ben, je sais pas, vous avez besoin de protéger une vigne, vous avez besoin de protéger des poules, vous avez besoin de... À partir du moment, où le milieu est suffisamment riche, bien évidemment. Aujourd'hui, on intervient beaucoup en grande culture, un peu partout en France, pour planter au milieu des parcelles. Parce qu'au milieu des parcelles, ça va être difficile de trouver le pommier en variété, la bonne au bon moment, au bon endroit. Ou la lisier terminale, ou le cormier, ou même le chêne qui va devenir un arbre têtard pour produire du bois. Donc on joue bien sur les deux entrées. Entretenir l'existant, lui donner de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors comment on fédère? Est-ce que c'est des CUMA? Est-ce que c'est des entreprises de travaux agricoles? Est-ce que c'est des organisations diverses et variées pour récupérer? Il y a, dans ce qui s'appelle encore le bocage, mais les haies en France, il y en a que 10% qui est valorisé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, vous l'avez vu arriver, mais il y a une concurrence et une demande sur le bois énergie qui est considérable. Il y a des zones, on ne sait pas comment on va répondre. Au-delà des poêles individuels qui s'installent tous les ans, il y a des unités pour faire, comment on appelle ça, des réseaux de chaleur notamment, pas que, la cogénération, etc. Il y a des choses qui s'installent et qui vont s'installer, qui font qu'il va y avoir une compétition sur le bois qui sera phénoménale. Donc comment on va là-dedans et comment on répond et on n'oppose pas la forêt, de quelque nature que ce soit, l'arbre hors forêt, et comment, sur des territoires donnés, on fait des compléments, pour qu'on puisse garder aussi, parce que sinon, on a vu, évidemment, et on peut avoir du bois d'œuvre qui passe directement au feu. Et oui, à partir du moment où on va remettre un peu de bois dans la construction, peut-être que les marchés vont être un peu plus adaptés, etc., etc., il est judicieux de dire, d'une bordure, d'une bande enherbée où il n'y a rien. Sur les bandes enherbées en culture, vous avez deux fois 5 mètres. Vous avez deux fois 5 mètres. Peut-être que sur les deux fois 5 mètres, ça vaut le coup de laisser pousser deux fois 2 mètres de cette ripisylve naissante qui va être... Une haie, c'est une création. La haie naturelle, ça n'existe pas. Une haie, c'est entretenue, c'est taillé. Donc une fois qu'elle est en pousse, on peut récupérer la production de l'année. Et l'idée, c'est de voir comment, heureusement, il y a plein d'agriculteurs qui sont plutôt très motivés, parce que le remettre tout ça en marche, c'est pas simple. Des outils qui taillent correctement les haies, ça n'existe pas vraiment. Des outils qui taillent correctement les arbres têtards, c'est pas encore. Il y a des pinces, il y a des sécateurs, enfin, c'est pas encore tout à fait... ça arrive, ça évolue, c'est pas tout à fait au point. Mais à chaque fois qu'il y a un arbre, même si c'est pas une finalité absolue, il est intéressant de lui donner une valeur. Parce que sinon, c'est quoi les bruits qui courent? C'est une haie, elle me coûte. Sur mon exploitation, j'ai 4 km de haie. C'est-à-dire que tous les ans, je dois investir tant pour entretenir avec la débroussailleuse. C'est ce qui s'appelle le castor ou les pareuses, peu importe. Et ce qu'il faut, c'est inverser cette tendance-là pour que la matière qui n'a pas besoin de rester au pied, parce qu'au pied de la haie, ça va, en principe, le sol est suffisamment riche, et que cette matière puisse partir vers d'autres destinations. L'idée de planter, oui, mais de planter, valoriser, donner la valeur. Et ça veut dire aussi de faire travailler les techniciens rivières avec les techniciens de chasse, avec les agriculteurs, avec les techniciens. Et oui, c'est pas facile. Ah, mais quand on est sur un territoire, et oui, effectivement, vous faites ça, oui, c'est... Parce que sinon, le technicien rivière, il n'a jamais assez de bois. Le petit propriétaire forestier qui a que 2 hectares, il n'a jamais assez de bois. Celui qui a un peu de haie, il n'en a pas assez non plus. Par contre, si on les indexe, notamment sur le bois énergie, si on les met ensemble, il y a des économies d'échelle, de machines, de gestion, de mise en marché, si on doit parler comme ça, qui sont a priori un peu plus intéressantes. Voilà. On est à combien là? On est à 10, 12...
18 minutes 12.
Ah oui, quand même. Ah tiens, je vais vous poser une question facile. Alors. C'est vrai, on a 18 minutes 12 là?
Non, ça fait... Allez, 30 minutes.
Là déjà?
Oui.
Ah, pas de question alors.
30 minutes.
Que là, oui. Qu'on a démarré?
Oui, mais juste le dernier petit truc, et puis après, à la suite.
Alors, je vais vous poser une question facile.
Voilà, et puis après...
Je vais prendre la chaise qui est à côté de moi, là.
Aïe.
Mauvais exemple.
et donc, on va considérer que le montant, là, c'est du bois de cœur, et que dans ce bois de cœur, c'est vraiment du bois de cœur. Mais ça en est en plus.
C'est le cœur du bois.
C'est pas de l'écorce, c'est pas de l'écorce, c'est pas de l'aulier, c'est vraiment. Et là, il reste toujours un peu d'eau, mais on va dire que j'ai enlevé toute l'eau. Donc dans mon morceau de bois ici, appelé chaise, j'ai enlevé toute l'eau. Et vous avez une idée de quoi est composé le bois? C'est quoi le bois?
La cellulose.
La lignine. Voilà. Le carbone. Voilà, plein de trucs sympas. Et Et donc, du coup, d'où vient la matière? Parce que là, j'ai quand même une matière qui est plutôt dure.
L'atmosphère, du gaz carbonique de l'air.
Du gaz carbonique de l'air?
Oui.
Je sais pas, moi.
De l'eau,
de l'eau, je l'ai enlevée, c'est pas facile.
Un
mais
peu de sel minéraux.
Un peu de sel minéraux. Du carbone.
Beaucoup de soleil.
Beaucoup de soleil. Donc si on se résume, j'ai un prélèvement de matière qui se fait dans le sol et dans l'atmosphère. À peu près, hein, on fait simple. C'est le soir quand même. Et du coup, vous avez une idée en pourcentage. Combien pour créer un morceau de bois comme ça, en pourcentage, combien je prélève dans le sol et combien je prélève dans l'atmosphère?
Oh, la presque totalité dans l'atmosphère.
C'est que, juste ils ont...
que quelques pourcents dans le sol.
Ah oui?
Enfin,
et combien, alors?
Sinon compris l'eau. Moi, je dirais 3, 4, 5% dans le sol maximum et 95% dans l'atmosphère.
Ouf, ça va voir fort. Alors, qui dit mieux?
Non compris l'eau.
Ah oui, non, on l'a enlevé. Ah, sinon, c'est pas drôle. Alors, les spécialistes là-bas.
Ah, moi, je suis sourd et je vois. Non, vous saurez bien que ces braves gens cherchent.
Ah oui, oui.
Avant de vider le baricot.
Alors, 50-50, madame. Ah, pas mal, équilibré.
Aucune idée.
Ouais, c'est pas... Combien?
Moins d'un pourcent du sol et.
Moi, lui, il va payer l'apéro à tout le monde.
Je pensais qu'il y avait plus du sol.
Plus du sol?
Ah oui, moi je pense.
Donc 75% du sol.
Par exemple. Oui, mais normalement, c'est nous qui avons posé les questions.
Et oui, c'est pour ça que je ne suis pas fou quand même. L'Aveyron, ça reste quand même. L'Aveyron, ça reste l'Aveyron, donc on anticipe. Hein. Il peut y avoir de la neige ici.
On parlait en masse. En masse, hein.
Non, en pourcentage.
Oui, mais en pourcentage du poids, quoi.
Oui, pardon, en pourcentage. Oui,
c'est ça, je dirais. Grand maximum 5% du sol.
Grand maximum 5%, vous disiez, vous, grand maximum 3%. Ah, mais c'est bien, vous maintenez votre position.
50-50.
Non,
c'est pas.
Pardon, oui. Bon, tout le monde doit se prononcer. Oui, hein, sinon,
qu'est-ce qu'on gagne?
Non, tout ça, c'est le montant du sol, donc tout vient de la racine. Hein.
Donc tout vient de la racine?
La synthèse se fait par le soleil, mais après tout.
N'oubliez pas que.
Les
oligo-éléments.
Le gaz carbonique.
N'oubliez pas que les feuilles retombent au sol, les branches, les bourgeons, les écorces aussi. Donc la réponse, elle est simple, hein, c'est très très simple. C'est vous qui avez gagné de loin, évidemment. C'est 99,8% prélevé dans l'atmosphère. Et encore. Donc ça veut dire que l'arbre, c'est une plante, c'est une machine qui fabrique du sol, avec un des principaux polluants atmosphériques qu'il y en a au-dessus de la terre.
Voilà. Il n'a pas besoin de racines. Hein.
Bah, de toute façon, les racines des arbres, ça ne sert à rien.
C'est juste des
tuyaux.
C'est le sol, mais ça tient l'arbre déjà.
Enfin bon, après, attention, hein, parce que on parle bien d'un système, j'ai parlé de bois de cœur, un système restitué. J'ai les bourgeons, j'ai les branches fines, j'ai les feuilles qui sont et les racines feuilles et les racines vie qui sont restituées au sol. J'ai bien pris du bois de cœur. J'ai pas pris une branche fine, j'ai pas pris un bourgeon, j'ai pas pris une feuille. Ou là, j'ai tout. Simplement l'arbre, il remet en permanence en boucle. Il remet et il monte comme ça en gamme. Vous savez bien la différence entre nous et une plante dans l'arbre. Comment ?
Il se construit sur ses déchets.
Mais il se construit tous les jours, il ne s'arrête pas. Nous, on s'arrête de pousser, lui, il ne s'arrête pas. Tous les ans, il met un nouvel arbre dessus. C'est pour ça qu'il y a un truc un peu particulier qui a été découvert par les Anglais. Pour une fois qu'ils ont découvert un truc. Mais. C'est évidemment.
Ça
vous fait rire, c'est complètement con.
Ils sont pas arrivés.
Ouais, mais j'espère bien, quand même.
Il reste en Guyane.
Il reste dans
le. Non, mais. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs.
Oui.
C'est une association qui s'appelle Ancient Tree. Ils ont mesuré et vérifié dans un certain nombre de parcs en Angleterre que les arbres taillés en têtard, ils vivaient plus vieux que ceux qui n'avaient jamais été taillés.
Pourvu qu'ils ne l'appliquent pas aux hommes.
il n'est pas aux femmes.
Et ils sont rendus compte de ça parce que l'arbre taillé, il se réitère. Comme il a besoin de se régénérer, il fait un arbre neuf tous les ans. Quand on le rabaisse, il se réitère, il met un nouveau système racinaire. Il est moins sensible au vent. Il est moins sensible à la foudre, par définition. Il est moins sensible, même s'il est creux, un arbre creux qui fait une descente de cime qui fait 40 mètres de haut, un arbre taillé en têtard. D'ailleurs, quand
ça dépend de type de taille et
oui,
de
l'exploitation. Sauf que quand ils ont pris un orme et un orme équivalent, quand ils ont pris un charme et un charme, ils avaient toujours un arbre.
Après, si on prend une vigne en Inde, elle a 5000 ans, et ici, il y a les vignes.
Ça c'est encore autre chose, effectivement. Non, mais après, on est d'accord, ça demande. C'est juste que ce mode de taille, régulière, récurrent, assez bien assuré, n'est pas. Je dis ça parce que souvent, et malheureusement c'est souvent le cas, il y a des tailles d'arbres qui sont très mauvaises, qui sont
voilà,
très néfastes.
Pas là pour tous les
moyens, voilà, les moyens.
Sachez juste que c'est pas forcément.
Il y a un principe.
Il y a un principe, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un principe agroforestier premier, c'est que les paysans, en inventant les arbres têtards, ils n'ont pas inventé, parce que c'est, les arbres têtards, c'est les torrents, quand vous avez un rocher qui tombe sur un sol, il repousse. Quand vous avez la foudre qui tombe sur un arbre, il repousse. Donc, les paysans ont inventé les arbres têtards. Pourquoi ils ont inventé les arbres têtards? Parce que les propriétaires se gardaient le fût, donc les paysans qui devaient se chauffer, éventuellement faire chauffer la marmite aussi, ils prenaient les branches. Et ça veut dire aussi qu'avec cet arbre têtard, tous les systèmes agroforestiers de par le monde, ils ont des arbres qui sont taillés et souvent en têtard. Je ne sais pas si vous connaissez un truc qui est bien moins bon que le porc noir gascon, c'est le pata negra. Vous avez déjà entendu parler de ce truc? Ah, vous êtes épargné ici. C'est le jambon ibérique. Le pata negra. Vous avez en Espagne, entre Espagne et Portugal, en Extrémadure, vous avez 2 400 000 hectares d'agroforesterie, de chêne vert. Un peu de chêne liège, parfois un peu de frêne dans les bas-fonds. C'est des arbres qui sont énormément taillés. Si vous utilisez l'huile d'argan, hein? L'huile d'argan, l'arganeraie au Maroc, ce sont des systèmes agroforestiers. Il n'y a de l'herbe que sous les arbres. Dans des conditions semi-désertiques, eh bien les arganiers sont taillés. Ce n'est pas des formes têtards qu'on a ici, mais ces arbres sont énormément taillés. Et la subtilité de l'arbre têtard, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on considère comme étant ce génie paysan, entre parenthèses, c'est qu'avec cet arbre têtard-là, même si, encore une fois, il ne faut pas le voir comme une exclusivité. Simplement, vous produisez du bois sans jamais couper l'arbre au pied. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que plus la machine arbre, la biologie est importante, plus vous produisez de la branche. Alors aujourd'hui, il faut qu'on remette aussi un peu ces cycles-là. On a mesuré, et ça sera ma conclusion, on a mesuré sur le... Parce qu'on travaille par zone géographique pour des raisons diverses et variées, y compris pour accompagner des politiques publiques, sur le bassin Adour-Garonne, dont on doit être dedans ici, en principe, oui. Hein, jusqu'à preuve du contraire, sur le bassin Adour-Garonne, on a mesuré, alors c'est des mesures qui sont faites avec des indicateurs de type de culture, d'assolement, etc., mais on a mesuré que sur ce bassin, on manquait cruellement d'arbres. Ça, c'est pas dur à vérifier. Et on avait 50% du carbone, puisqu'on est dans l'année des sols, on est dans l'année du climat, on a 50% du carbone sur le bassin d'Ourgaronne qui n'est pas stocké. C'est-à-dire qu'on peut multiplier par deux le stockage du carbone dû aux végétaux, aux plantes. Alors j'étais ravi, parce que j'étais chez monsieur tout à l'heure et j'ai vu des couverts végétaux dans la vigne. Il n'y a pas de travail du sol dans la vigne. Donc ça stocke beaucoup de carbone, ça évite l'érosion, ça donne une dynamique des champs mycorhiziens dans les vignes, etc. Donc théoriquement, moins de pathologies. Il y a 50% du carbone qui devrait être stocké tous les jours
dans des
arbres et dans des plants. Le travail du sol, c'est un drame pour l'agriculture, vous le saviez.
Oui.
Le compost aussi, ça pose énormément de problèmes d'ailleurs. Le travail du sol, ça empêche la biologie du sol de fonctionner correctement. Et plus on en met, alors après il y a aussi des produits phyto, etc.
Vous pouvez cliquer sur le mot compost,
non ? Comment ?
On peut cliquer sur le mot compost ?
Oui, allez-y.
J'ai l'air de dire que c'était une catastrophe.
Ah oui, le compost, c'est une merde absolue.
Alors, quand il développe ?
Mais non, après.
Oui, oui.
Parce qu'il faut d'abord.
Et on a... Ah ouais, le compost, là, si vous voulez être dans la merde, vous mettez du compost. Hein.
Tout à l'heure, tout à l'heure.
Ah oui.
Ah, ça vaut rien du tout, quoi.
C'est le suspense. C'est
ah oui,
tout
oui,
à l'heure.
Ah, vous saviez pas ça.
Non, c'est
ah putain. Ah non. Ah non, 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 non.
Vous avez le trouble, là.
Ah ben tant mieux, toi.
On a tous bien, ça va déconstruire.
Ah bon, on m'a dit quand même.
Des arguments, quand même, pour qu'on déconstruise.
C'est le suspense.
Vous n'avez pas la téloge ici ou quoi?
Non, surtout pas. Surtout pas.
Moi, je ne l'ai pas non plus. Non, juste que je suis quand même payé pour vous dire 3-4 trucs là. C'est vachement bien.
Pas cher.
Ouais, voilà. Non, non. Et on a aussi mesuré qu'il y a 20%, il y a 20% de l'eau. Attention, là, c'est la règle générale. Il y a plein d'endroits où ça va bien. Mais il y a 20% de l'eau qui tombe sur le même bassin d'Eau-Garonne, ce qui est énorme, qui part en ruissellement. C'est-à-dire qu'on dit. On dit qu'on...
Et alors, comment on ferait pour refroidir Golfech?
Ah, mais c'est. Ça part en ruissellement, c'est-à-dire que ça fait monter les niveaux très vite. Le Golfech, tu le refroidis pas dans les périodes d'orage, enfin, tu le refroidis toute l'année. Non, non, c'est. On a. Et du coup, on a un gros problème de recharge de nappe. Dans des zones cultivées trop grandes, on a un gros problème de recharge de nappe quand il y en a, et un gros problème de sécheresse estivale, puisqu'on n'a pas créé de réserve utile en eau dans les sols. Et c'est là où l'arbre. Mais aller planter des arbres dans des déserts, ça ne sert à rien. Et c'est là que l'arbre joue un rôle de régulateur. De régulateur du cycle de l'eau, avec des couverts végétaux, avec des intercultures, avec des réductions d'intrants, des réductions de travail du sol. Hein. Vous le savez ou vous le savez pas, mais dans les systèmes agroforestiers, on fait une grosse promotion des semis directs sous couvert, de l'agriculture de conservation sous toutes les formes, parce qu'on n'est pas. On prend les agricultures là où elles sont. Et puis, on les fait monter. Elles sont bio, elles sont conventionnelles, elles sont avec ci, avec ça, peu importe. L'idée, c'est que dès qu'il y a du travail du sol, on a des problèmes. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui était encore il y a quelques années, qui n'était pas encore totalement accepté. Dès qu'on met du travail du sol...
Encore, ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut en parler librement. À une époque, on se faisait foutre dehors. Voilà, bon, on en reste là.
Ah oui, on va
parce qu'il faut respecter
après,
les vins.
On a plein de questions.
Oui, après, on va parler compost.
Ah,
c'est sûr.
Donc, allez, on reprend dans un quart d'heure.